J'en viens maintenant à notre conférencier du jour, Walter Staël, qui est né en 1946 à Zurich. Il est architecte de formation. Il est fondateur et directeur de l'Institut de la durée à Genève. Et depuis 15 ans, Walter Staël travaille en Europe, aux États-Unis ou en Asie comme consultant en gestion d'entreprise et en analyse industrielle. Il travaille également régulièrement pour la Commission européenne, mais aussi pour des sociétés industrielles et des gouvernements régionaux et nationaux. Parmi ses spécialités, il est spécialiste de recherche de stratégie et de politique liées au développement durable. Il est spécialiste de la gestion des risques par une stratégie de prévention et par une conception appropriée de biens du développement économique régional. Walter Staël a reçu deux prix importants. En 1978, avec Peter Perutz, ils obtiennent un prix dans un concours en République fédérale allemande sur la question du chômage, de l'emploi et de la profession. Et en 1942, Walter Staël est l'un des lauréats du Mitchell Prize aux États-Unis pour une publication sur l'influence de la durée de vie des biens et des composants sur l'économie, l'écologie et les emplois. Parmi ces publications, il faut noter qu'il est éditeur associé des cahiers de Genève, risques et assurances, et membre de l'editorial board d'un journal qui s'appelle The Journal of Industrial Ecology, qui est publié à Yale. Et il est aussi membre de l'editorial board de nombreux périodiques. Il a contribué également à de nombreux ouvrages collectifs. Et pour tout ça, je renvoie au site internet dont je vais donner l'adresse, qui est www.product-life.org, sur lequel vous pourrez retrouver l'ensemble des publications, mais aussi des informations sur ces publications. Voilà. Walter Staël, je vous laisse donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi pourra suivre un débat d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand honneur d'être ici. Je vous prie déjà d'excuser toutes les fautes françaises que je vais faire, parce que ce n'est pas ma langue maternelle. La conférence va mettre de l'évidence sur trois points. D'abord, l'importance, quand on parle de déchets, l'importance d'une vue systémique dans le contexte du développement durable. Deuxièmement, le fait que, au lieu d'analyser les déchets, on peut très bien aussi analyser les flux de ressources, parce que toutes ressources utilisées deviennent déchets. Et troisièmement, une lumière approfondie sur les déchets que vous payez directement, c'est-à-dire les déchets privés de ménages qui sont normalement pas toxiques, qui sont en dehors du contexte de l'économie, dont l'élimination est payée par l'État ou le contribuable directement, donc des endroits, des produits, des biens où vous pouvez aussi économiser de l'argent. Mais d'abord, j'aimerais vous montrer, j'espère que vous arrivez à voir tout ça, les déchets sont un miroir de la société, de chaque époque, où, si vous voulez, l'histoire ne se répète jamais, entre autres à cause des déchets. Les déchets proviennent aujourd'hui surtout de l'activité industrielle de l'homme, les déchets miniers et les déchets de fabrication, les produits au rebut et les emballages. Les problèmes des déchets se posent au lieu de chute, le fameux anglais « end of pipe ». La solution préférée étant encore souvent leur élimination, quelquefois en dehors du cadre légal. Mais les déchets sont aussi issus de nos systèmes de valeurs et de systèmes de responsabilité, ainsi qu'un reflet de la politique économique. Au lieu de perfectionner leur élimination, pourrions-nous essayer de les revaloriser ou les éviter? En réalité, on va toujours avoir les trois solutions, les éliminer, les éviter, les revaloriser, en parallèle pour différents types de produits. Les déchets naturels, le texte de ce cartoon, c'est « Mais j'ai cru que c'était un parc, qu'est-ce qui se passe ici ?» C'est-à-dire, vous vous souvenez des tempêtes de Lothar, au début de l'année, et tout le monde était affolé avec tous les arbres qui sont tombés, évidemment, qui traînaient partout. La réponse à ce monsieur est donnée par tous ces petits animaux qui étaient déjà en train de manger tout ça, mais malheureusement, il leur faut du temps. C'est-à-dire, les déchets naturels sont dans un cycle naturel. Tous ces arbres auraient été éliminés dans l'espace de 5 ou 10 ans, mais la nature a besoin de temps, la nature n'est pas pressée, elle travaille à son propre rythme. Donc, si nous ne pouvons pas accepter le rythme de la nature, nous sommes obligés d'intervenir et de faire le travail moins efficace, mais plus rapidement que la nature. Après, vous avez les déchets de toutes les couleurs, c'est-à-dire les déchets miniers qui, normalement, on n'est pas conscient de ces déchets parce que ça se passe ici au Nevada, dans des endroits assez lointains, mais comme quantité, aux États-Unis et aussi en Europe, c'est à peu près la même chose, chacun de vous consomme 12 tonnes de ces déchets par année, ou crée 12 tonnes de ces déchets par année, sans le savoir. Donc je crois que vous pouvez vous imaginer, une voiture pèse à peu près 1,5 tonnes, donc 12 tonnes, c'est déjà pas mal de déchets par année. D'ailleurs, le flux de ressources que chacun d'entre nous crée correspond à peu près à 60 tonnes par année. Donc, c'est des quantités considérables qui finissent tout en déchets. Et puis, les déchets dont la plupart de vous est conscient, c'est les déchets end of pipe, les déchets ménagers, les déchets dans les décharges, parce que ceux-là sont visibles. Le développement durable exige une vue systémique des problèmes de l'environnement. Ce problème, on peut démontrer par l'énergie nécessaire pour la production d'une pomme. Supposons que vous achetez des pommes en provenance de la Nouvelle-Zélande ou des pommes en provenance de la France dans un magasin. Lesquelles sont moins gourmands, point de vue d'énergie ? Bon, la réponse est très simple. Ça ne dépend pas de la pomme, ça dépend de vous. Si vous avez pris une voiture pour aller acheter les pommes, c'est vous qui avez créé le plus de consommation d'énergie. Si vous êtes allé à pied ou en bicyclette, c'est la pomme de la Nouvelle-Zélande qui est venue en bateau. Donc, votre comportement, très souvent, a une influence beaucoup plus grande sur les déchets et la consommation de ressources que l'économie, les acteurs économiques. Maintenant, si on regarde le développement durable, pas dans la définition, c'est la compatibilité des facteurs écologiques, économiques et sociaux, mais on peut aussi le regarder dans la logique chronologique. Au début, il y avait la protection de la nature, Jean-Jacques Rousseau, et était probablement un des premiers. Après, il y a eu le problème de la toxicologie. Tout ça, c'est la protection de l'environnement. À la suite de ça, c'est dont je vais surtout vous parler, la réduction des flux des matières et des flux d'énergie. Et ce qu'il reste encore à résoudre, c'est la création d'une société durable, c'est-à-dire ce que nous appelons l'écologie sociale et l'écologie culturelle. Nous avons fait des grands progrès seulement dans deux domaines, dans les 10 ou 20 ans passés. Nous avons diminué l'impact des déchets toxiques sur l'homme et sur l'environnement, et nous avons augmenté la productivité dans l'utilisation des ressources dans les processus industriels, c'est-à-dire pour produire 1 kilo de produit, aujourd'hui, nous avons besoin de moins d'énergie et de moins de matière qu'il y a 10 ou 20 ans. Malheureusement, si vous regardez le premier pilier, la biodiversité, nous avons fait le contraire. Nous avons réduit grandement la biodiversité qu'il y avait. Et les flux des matières et d'énergie au niveau national, nous avons aussi échoué parce que les flux continuent à augmenter malgré le fait que les processus technologiques deviennent plus efficaces, la consommation de matières et d'énergie, et donc aussi les déchets solides et les déchets comme le CO2, augmentent chaque année. Mais même le fait que nous avons réduit le volume ou le danger de la toxicologie, malheureusement, n'a pas résolu le problème qui est posé par la phrase de Paracelsus, le phénomène de la concentration. De nombreuses substances sont des médicaments à petite dose, mais des poisons à dose plus grande. L'accumulation de déchets toxiques non biodégradables dans le sol, l'atmosphère et l'eau peut donc créer des crises d'intoxication, même si leur quantité continue à diminuer. Ce qui veut dire que éviter les déchets toxiques ou les matières toxiques à long terme est la seule stratégie durable. Il y a encore un autre phénomène, le phénomène du temps. Pensez aux CFC qui détruisent la couche d'ozone. La durée de temps jusqu'à ce que ces CFC arrivent dans la stratosphère est à peu près de 100 ans. Donc, nous allons savoir dans 100 ans si nous avons détruit toute la couche d'ozone ou pas. Et la même chose, évidemment, c'est avec les toxines qui vont dans le sol jusqu'à ce qu'ils arrivent dans l'eau potable, ça peut durer longtemps. Mais le principe de précaution nous demande, si nous avons des doutes, de ne pas le faire. Donc, éviter ces types de déchets, ces types de problèmes. Les déchets, donc, existent sous forme de gaz, sous forme de liquide ou de corps solide. Dans les deux premiers cas, on parle normalement d'émissions ou de pollution au lieu de déchets. Vu que tout produit finit comme déchet, il peut être judicieux d'analyser les matières qui entrent dans un processus de production ou dans les achats d'une société ou d'une institution, plutôt que d'analyser les déchets souvent très dilués qui en sortent. Ceci est l'approche d'une méthode suédoise connue sous le nom « the natural step », la marche naturelle. Alors, par exemple, si vous voulez savoir si votre administration municipale ou si votre société éjecte du cadmium ou du mercure dans la nature, très souvent, les doses sont tellement minimes aujourd'hui qu'en mesurant les déchets, vous n'allez pas trouver des traces de ces matières. Mais si vous demandez à vos fournisseurs de vous donner une liste de toutes les matières qu'ils mettent dans leurs produits, vous allez malheureusement encore aujourd'hui très souvent trouver que tout à coup, vous achetez des kilos de métaux lourds sans le savoir. Et évidemment, vous les émettez dans la nature à la fin. Donc, vous polluez sans être conscient. Oublions les déchets toxiques et concentrons-nous sur les déchets non toxiques. Le volume des déchets solides et des émissions non toxiques continue à augmenter partout, comme je l'ai déjà dit, mesuré en tonnes par habitant et par pays, contrairement au volume des déchets dangereux. Les déchets solides sont souvent sous forme de poudre, tels que les déchets miniers que vous avez vus. Ils ne sont alors perçus comme déchets qu'en cas de catastrophe écologique, lorsque, par exemple, un barrage d'un lac dit toxique se brise et les eaux s'en échappent, polluant les rivières. Il y a eu des cas récents en Espagne, en Hongrie, aux États-Unis. Chaque année, il y a quelques problèmes de ce type-là. Ces déchets miniers sont aussi connus sous le nom de rucksack ou sac à dos de la production industrielle. Ces sacs à dos, c'est quelque chose qui est très abstrait et donc très difficile à s'imaginer. Mais par exemple, pour produire un gramme d'or, vous êtes obligé de rendre 500 000 grammes de rocher en poudre. Ce qui veut dire que le sac à dos de l'or est d'un facteur de 500 000. Malheureusement, ces 500 000 grammes que vous avez réduits en poudre pour récupérer votre or, qu'on ne contient pas seulement du rocher, mais aussi d'autres métaux lourds et toute autre matière qui maintenant ont été libérées, donc qui vont se retrouver soit dans l'air, soit dans le sol, soit dans l'eau. Si on regarde pas seulement une matière comme l'or, mais d'une façon générale, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, Et je crois que vous voyez, si vous lisez ça, que finalement, les déchets des ménages, les résidus ménagers, c'est une toute petite partie, 80% des ressources consommées ne sont jamais visibles parce qu'elles ne sont jamais transformées en produits vendus sur le marché. Et des 20% de produits, de ressources qui finissent en produits, 93% des ressources ne sont jamais transformées en biens et 80% des biens vendus sont jetés après une seule utilisation. Ce qui veut dire que nous avons une consommation de ressources phénoménale, tout simplement par le fait que très peu, 7% des ressources exploitées, sont effectivement utilisées sous forme de produits. Ces déchets de production peuvent quelquefois être réutilisés, on parle alors de l'écologie industrielle, quand les déchets d'une usine deviennent les ressources d'une autre usine. Mais même ça se limite toujours aux déchets de production. Et malheureusement, la limite entre déchets de production et déchets produits est de plus en plus petit. Ici, vous avez une fabrication de lingerie. En haut, vous avez les produits qui sont achetés par l'usine, donc les emballages, les semi-produits et les produits finis. À gauche, vous avez des matières qui sont achetées, donc du diesel, de l'énergie et du papier. Et à droite, vous avez l'énergie en électricité, en chaleur et l'eau. Il y a quelque chose qui manque évidemment sur cette liste, c'est les bâtiments, parce qu'une usine a toujours des bâtiments et les bâtiments aussi deviennent des déchets. Il y a tous les déchets qui étaient produits tout en haut pour produire les emballages et les semi-produits et les produits finis qui manquent aussi. Donc, en analysant une entreprise, il ne faut jamais oublier que vous regardez qu'une petite partie dans l'économie globalisée des déchets. Et si, même si vous regardez les outputs, donc ce qui sort de l'usine, de l'eau usée, la plus grande quantité de déchets sort en forme d'eau usée, donc réchauffée ou légèrement polluée, et en CO2. Maintenant, le problème du CO2, c'est ça ne sert à pas à grand-chose de regarder le chauffage ou la chaleur de l'usine, parce que probablement les camions de l'usine, surtout si les produits viennent de tous les coins du monde, l'énergie dépensée pour les transports est considérablement plus grande que l'énergie consommée à l'intérieur de l'usine. Mais vous avez sur 2200 tonnes de produits, vous avez à peu près 3400 tonnes de déchets, soit des déchets production, soit des déchets sous forme de publicité qui sont nécessaires pour vendre les produits, soit les déchets sous forme d'emballage, parce que si vous achetez quelque chose, si vous achetez de la lingerie, vous achetez un kilo de lingerie avec un kilo d'emballage, malheureusement, l'emballage, vous ne le mettez pas, vous le jetez tout de suite. La lingerie, vous le jetez plus tard. Mais en principe, vous voyez que toute économie industrielle, aujourd'hui, en principe, est une activité pour traduire des ressources de toutes sortes en déchets. Maintenant, si nous regardons que les déchets end of pipe, donc les déchets à la fin des processus, vous voyez, l'important, c'est la partie gauche qui est lisible, j'espère. Vous voyez que la plus grande partie des déchets, 2/3 des déchets, c'est des gravats et déchets de construction ou des déchets d'excavation. Donc, 2/3 des déchets viennent d'une industrie qui, normalement, n'a pas la réputation d'être terriblement polluante. Mais évidemment, toute infrastructure et tout bâtiment devient plus tôt ou plus tard déchet. Et à peu près 10% des matières de construction livrées sur un chantier, croyez-moi étant architecte, finissent jamais dans le bâtiment, mais finissent dans les déchets. Si vous montez, les déchets de production font à peu près 14%. Les résidus ménagers encombrants, déchets de l'artisanat, est à peu près 10%. Les bouts de production, donc les déchets qui sont sous forme liquide ou semi-liquide, 5,5%. Les bouts d'épuration, donc des stations qui traitent l'eau, les eaux usées, 4,4%. Et les déchets spéciaux, 1,3%. Donc, le problème, c'est que normalement, quand nous parlons de déchets, nous parlons des déchets spéciaux qui font 1,3% de toute la montagne des déchets. Mais là où les personnes ont une influence, les consommateurs ont une influence directe, évidemment, c'est surtout les résidus ménagers et résidus encombrants. Qu'est-ce qui se passe avec ces déchets? Vous avez deux extrêmes. Un extrême, c'est la ville de New York qui a deux solutions très faciles. Une solution, c'est les déchets inertes qui sont empilés sur une grande colline. D'ailleurs, si jamais vous êtes dans ces fameux cuisses pour gagner 1 million et on vous pose la question, quelle est la montagne côté est des États-Unis, la montagne la plus haute au sud du Maine? C'est très simplement la colline déchets de la ville de New York dans l'État de New Jersey. Donc, c'est une colline artificielle. Et l'autre moitié, qui sont les déchets pas inertes, c'est encore plus facile. On les met dans des bateaux qui ont des fonds qui s'ouvrent et on les promène sur l'Atlantique. Ils partent vides, ils partent pleins, ils reviennent vides. Donc, c'est la magie. Ça, malheureusement, c'est encore souvent la solution, l'élimination des déchets dans des décharges, dans l'Atlantique ou à une autre mer. Il y a l'autre extrême, qui est la Suisse. On a depuis le 1er janvier de cette année une législation qui interdit toute décharge. Donc, tout déchet, résidu ménager ou artisanal, doivent être incinérés. À première vue, c'est une solution très élégante. À deuxième vue, il y a un problème. Le volume des déchets augmente chaque année parce que la consommation de ressources augmente chaque année et la toxicité de ces déchets avec la miniaturisation, surtout de l'électronique, augmente. Ce qui veut dire que ce qui sort des cheminées de ces incinérateurs doit être filtré. Il faut sortir les dioxines, il faut sortir les métaux lourds. Et à la fin, incinérer des déchets, ce n'est pas une élimination, c'est une réduction du volume d'un tiers. Ce qui veut dire qu'il vous reste 2/3 du volume seulement maintenant concentré qu'il faut toujours déposer quelque part. Donc l'incinération, ce n'est pas la solution miracle qu'on a espéré. Mais en principe, tout le problème des déchets, le problème de base des déchets, de tous les déchets, sauf les déchets naturels, c'est que la conception de déchets, un enfant de l'économie industrielle ou manufacturière, Cette dernière étant de caractère linéaire, elle optimise, l'économie optimise les activités jusqu'au point de vente, et au point de vente, la propriété, mais aussi la responsabilité pour le produit, et pour l'entretien, et pour les déchets, passe du fabricant, qui est un expert, au consommateur, qui est un amateur dans la matière. Une analyse, si on reste un moment sur cette structure linéaire de l'économie industrielle, une analyse de la distribution des facteurs de production nous montre que 3/4 de toute la consommation énergétique a lieu dans la production des matières de base, telles que l'acier ou le ciment, et seulement 1/4 dans les processus d'assemblage. Pour la main-d'œuvre, ces proportions sont inversées. 3/4 sont utilisés dans les processus d'assemblage et seulement 1/4 dans la production de matières de base. Une promotion des activités dans les processus d'assemblage ou de caractère d'assemblage serait donc égale à une création d'emplois ainsi qu'une économie de ressources. C'est-à-dire, dans cette partie-là de toute la chaîne, vous avez la grande consommation de matière et d'énergie, mais un tout petit input de main-d'œuvre. Et le grand input de main-d'œuvre est dans les assemblages, la production, où vous utilisez relativement peu de matière et d'énergie. Donc, si vous voulez créer des emplois et économiser des ressources, il faut éliminer la partie gauche de cette économie linéaire et la partie droite, les déchets. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est très important de garder une vue systémique des déchets et de ne pas oublier que les déchets, c'est seulement une petite partie de l'économie. Le problème, ce n'est pas d'optimiser la façon dont nous traitons les déchets. Le problème de base, c'est de transformer notre économie en une économie durable, viable, et évidemment une société viable aussi. Les problèmes de déchets se posent aujourd'hui, donc après leur consommation ou utilisation, au lieu de chute, c'est-à-dire auprès du consommateur qui s'intéresse à l'achat des biens, mais guère aux déchets. C'est alors l'État qui prend en charge les déchets aux frais du contribuable ou qui demande au contribuable de payer pour liquider les déchets. Maintenant, je crois, nous savons tous comment on peut économiser de l'argent dans ce cas-là. Si on vous demande, par exemple, de payer 200 francs ou 1000 francs pour, à la fin de la vie d'une voiture, vous savez très bien comment on peut économiser à ce moment-là ces 1000 francs. Là, vous avez à Château-Arnoux, donc un canal en France, le sud de la France, où quand on voulait faire autre chose, mais on a vidé le canal, et sur une distance de 30 km, on a trouvé 600 épaves de voitures. Parce que c'est la façon, la meilleure marché, pour liquider une voiture dont vous n'avez plus besoin. En autre mot, le fait de faire payer le consommateur pour liquider des déchets n'est pas nécessairement la façon la plus durable de traiter les problèmes. La solution logique, comme je l'ai déjà mentionné, ce serait de tourner ce qui avant était une économie linéaire en une économie en boucle. Fermer les boucles de matériel, mais aussi fermer les boucles de responsabilité. C'est-à-dire de créer une autre économie de services qui s'auto-réapprovisionne en tout cas pour les biens durables, tels que les voitures, ou les frigos, ou l'électronique. Une économie en boucle permet d'éviter une grande partie des déchets miniers, à gauche, liés à l'exploitation des ressources naturelles, et permet aussi d'éviter, évidemment, les déchets end of pipe, les déchets à la fin, après la consommation. À l'intérieur des boucles, une telle économie diminue les déchets par leur revalorisation, soit par leur réutilisation intégrale dans les produits existants, soit par un recyclage des matériaux. Mais la grande révolution, c'est qu'une telle économie met en avant l'utilisation des biens qui devient le nouvel objectif de l'optimisation économique au lieu de la production qui aujourd'hui, l'optimisation de la production qui aujourd'hui est l'objectif principal. Cette approche demande aussi une autre conception du ramassage des déchets, car les vieux produits sont maintenant considérés comme les biens d'une certaine valeur, qu'il faut maintenir la valeur. Le ramassage actuel efficace des déchets par des camions compacteurs doit faire place à la reprise soignée, ce qui permet de récupérer et revendre avec profit jusqu'à 80% des biens durables repris. Ceci se traduit en une prévention des déchets considérable, mais aussi une épargne de ressources renouvelables. Non renouvelable. Maintenant, quelle est la différence de ces deux boucles-là? Une boucle, c'est la remise en état des biens, l'autre, c'est le recyclage des matières. Le recyclage des matières, voici, vous avez le pavillon suisse à Séville, qui était le premier pavillon d'une exposition mondiale à 100% recyclable. Malheureusement, on n'a pas fait de propagande, donc tout le monde pense que c'est le pavillon japonais à Hanover cette année qui est le premier pavillon fait de papier et donc recyclable. Mais vous savez, les Suisses font toujours les choses sans en parler. Et quelquefois, il faut faire plus de publicité pour ce qu'on fait. Mais la conclusion du pavillon suisse de Séville, c'est une autre. Parce qu'à la fin, on a fait une vente aux enchères, on a tout vendu, les ordinateurs, les meubles, tout était vendu. La seule chose qui était invendable, même, on ne pouvait même pas le donner, c'était 20 tonnes de papier, pur, blanc. Personne ne les voulait. Parce que le recyclage du papier, il y a une surenchère, il y a trop de papier et ça n'intéresse personne. Donc finalement, on a reçu de l'argent pour tout, sauf pour le papier. Le papier, on a dû payer pour que quelqu'un les incinère, malgré le fait que c'est absolument recyclable. Donc le problème du recyclage, ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème d'économie. Si les matières premières sont meilleur marché que le ramassage des matières à recycler, économiquement, c'est raisonnable d'utiliser les matières premières et de jeter les matières à recycler. Ça, c'est un extrême des boucles. La plus petite boucle qui n'était même pas visible sur ce que je vous ai montré, c'est la boucle de l'utilisation, c'est-à-dire de vendre, pas le produit, mais vendre l'utilisation d'un produit. Alors, par exemple, pourquoi vous voulez acheter un système d'alarme? Pourquoi vous voulez acheter un téléphone mobile? On vous le donne. Et si c'est quelque chose comme un système d'alarme, ça veut dire que la propriété de l'installation reste avec la société qui vend le service de sécurité. Alors, si après une année, vous aimerez une nouvelle installation, on ne va évidemment pas vous donner une nouvelle installation, on va mettre une mise à jour technologique de l'installation que vous avez et vous auriez une installation de la dernière génération. Si vous aviez acheté une installation de sécurité et après une année, vous voulez une meilleure, vous êtes obligé d'en acheter une nouvelle parce que le vendeur n'a aucun intérêt économiquement de faire une mise à jour technologique de l'installation que vous avez et surtout elle n'était pas prévue à ce but. Donc, le fait qu'un fabricant doit reprendre une installation, un bien à la fin de l'utilisation, l'amène à construire ce bien ou ce système différemment. Maintenant, nous arrivons, évidemment, entre les deux, il y a, peut-être je devrais encore mentionner ça, il y a la reprise d'un bien afin de le contrôler, de le remettre en vente et de faire de l'argent sans produire des biens. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les caméras à jeter, qui sont vraiment des caméras en location, mais vous ne le savez pas. Et la caméra retourne tout seule, elle ne devient pas déchet pour la simple raison que le fabricant a eu une idée absolument géniale, il a mis un film dedans. Et vous avez pris des photos avec le film, c'est-à-dire à la fin du film, vous retournez la caméra dans un copy shop ou vous l'envoyez à un laboratoire qui renvoie la caméra au fabricant et le labo vous donne les photos, elle retourne la caméra au fabricant. Kodak, dans ce cas-là, ouvre la caméra, il y a 3 pièces dedans, les contrôle, met un nouveau film et le revend au prochain. Donc, c'est une façon intelligente d'utiliser un produit extrêmement léger, ça pèse 30 grammes de styropore, un plastique facilement recyclable. Le rucksack, le sac à dos du pétrole est 10%, donc cette caméra avec son sac à dos pèse 33%. Si vous calculez les ressources nécessaires pour prendre une photo, disons que vous avez un film de 36 poses là-dedans, vous utilisez 1 gramme de ressources par photo. Si vous achetez une vraie caméra avec moteur électrique, que celle-ci ne va jamais avoir, ça c'est une astuce technique. Si vous achetez une vraie caméra, pour arriver à une consommation avec le sac à dos d'un gramme de ressources par photo, il faut faire 10 000 films, ce que vous n'arriverez jamais. Donc, vous voyez que quelquefois, c'est des produits de longue durée de vie qui sont moins consommateurs de matière. Quelquefois, c'est l'utilisation rapide d'un bien dématérialisé qui est beaucoup plus efficace, mais seulement dans un système, pas de produits jetables, mais dans un système de reprise des produits par le fabricant et remise en vente. Mais revenons aux 3 questions. Éviter les déchets. Éviter les déchets, c'est surtout vous et moi, les consommateurs, qui peuvent le faire. Les consommateurs sont les rois de la prévention des déchets de biens durables et d'autres biens, car ils peuvent acheter un bien durable au lieu d'acheter le même. Ils peuvent acheter un bien durable au lieu d'acheter le même bien en version jetable, décider d'acheter des biens seconde main au lieu d'acheter du neuf, ou même renoncer à acheter un bien tout court. Les consommateurs, en plus, peuvent agir dans un contexte économique, donc échanger des biens contre l'argent, ou dans un contexte communautaire, donner un bien comme cadeau ou l'échanger contre un autre. Ce qui vous économise de l'argent, mais ne fait pas le plaisir de l'État parce que vous ne payez pas de taxes ni d'impôts. Peut-être pour juste une Sénèque que je cite ici, était un des hommes les plus riches de son temps. Ce qui pose la question, est-ce que renoncer est plus facile si vous êtes riche, parce que vous n'avez pas besoin de démontrer votre richesse? Est-ce que les pauvres peuvent se permettre de ne pas consommer? Ça, c'est une question sociale. Mais en tout cas, ça montre qu'un changement de cap vers une autre économie demande des adaptations dans nos têtes, dans les structures économiques, mais aussi dans les conditions cadres de l'État. D'ailleurs, Sénèque, la vérité de Sénèque, c'est quelque chose qui revient régulièrement à travers les siècles. Mark Twain l'a dit d'une façon un peu plus marrant. La civilisation est l'accroissement constant des nécessités inutiles. J'ai oublié qu'à la radio, on ne voit pas les diagrammes. Maintenant, si le consommateur peut être très efficace dans la prévention des déchets, les acteurs économiques, producteurs, distributeurs et commerçants peuvent opter soit pour des produits d'une durée de vie plus longue dès la conception, soit pour une prolongation de la durée de vie et des biens par des services. Qu'est-ce que ça veut dire, la prolongation des durées de vie des biens, et qu'est-ce que ça a comme répercussion? Très souvent, si vous avez des questions et vous ne trouvez pas la réponse, le plus simple, vous le faites vous-même. Donc, je peux vous montrer l'analyse des coûts de ma voiture qui a été fabriquée en 1969. Et vous pouvez voir qu'une analyse après 10 ans, sans tenir compte de l'essence, vous voyez que le coût d'achat fait encore 61% des coûts totaux, tandis que le travail d'entretien, de service, fait seulement 18%. Après 20 ans, ça a déjà changé radicalement. Les coûts d'achat et le travail dans les ateliers de réparation et de service font maintenant un tiers des dépenses totales. Les parts, les pièces d'échange sont le troisième tiers. Mais surtout après 30 ans, vous voyez que l'argent que j'ai dépensé pour la main-d'œuvre, pour l'entretien de cette voiture et la remise à jour de la carrosserie après 27 ans, fait maintenant 50% de tout l'argent que j'ai dépensé. Donc la moitié de tout l'argent que j'ai dépensé, j'ai payé pour de la main-d'œuvre, un quart le coût d'achat et un quart pour les pièces. Donc, avec la durée de vie d'un bien, la part des dépenses pour la main-d'œuvre augmente et la part qui va à l'usine diminue, ce qui veut dire que cette stratégie n'a pas d'intérêt pour un fabricant dans l'économie linéaire industrielle. Elle devient intéressante pour les fabricants au moment où les fabricants doivent reprendre les voitures à la fin de leur vie, sans un sou. Et le chef de General Motors a déjà, il y a quelques semaines, annoncé que si l'Union européenne continue avec la législation que toutes les voitures doivent être retournées aux fabricants sans que celui reçoive un paiement, c'est-à-dire que le fabricant devient responsable de la fabrication et de l'élimination de la voiture, à ce moment-là, General Motors va louer les voitures et pas les vendre, parce qu'à ce moment-là, General Motors veut aussi faire du fric avec l'utilisation des voitures et pas seulement avec la fabrication, ce qui veut dire que les voitures seront conçu différemment afin que le fabricant puisse gagner de l'argent sur toute la durée de la vie des voitures, y inclut la reprise et la réutilisation de composants. Maintenant, pour le consommateur, évidemment, ça veut dire que d'abord, vous avez la possibilité de participer à des rallyes des vieilles voitures, des voitures de collection. Et deuxièmement, que vous avez le, ou moi j'ai le plaisir de rouler dans une voiture qui est unique en Europe. Donc, c'est la meilleure protection contre le vol parce qu'elle est invendable, c'est comme un Picasso. C'est la seule voiture de ce type qui existe encore en Europe, donc essayez même pas de la voler. Je viens chaque année à Paris avec le rallye des vieilles voitures de Bâle à Paris. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir une collection de belles voitures, c'est toujours mi-août, vous avez 250 voitures de 1905, je crois les plus anciens, à 1970, qui se promènent à Paris, de Bâle à Paris, et c'est absolument incroyable. La plupart des gens ne peuvent pas croire qu'une voiture de 30 ou 50 ou 70 ans roule encore et surtout survive de faire 500 km à une vitesse moyenne de 60 km par heure. Mais vous serez étonné la qualité que nos pères et grands-pères ont déjà investi dans leur fabrication. De nouveau, il faut une vue systémique pour voir que dans la durabilité des biens, il n'y a pas seulement la prévention des déchets et l'économie d'énergie, il y a surtout aussi un grand volume de travail et de travail qualifié et de travail décentralisé qui aujourd'hui est jeté. Et j'arrive au bout. L'État, j'ai parlé du consommateur, j'ai parlé des acteurs économiques qui peuvent surtout revaloriser le stock des biens existants. Et le rôle de l'État dans tout ça, évidemment, c'est de promouvoir une politique cohérente visant le développement durable. Le besoin d'une optimisation économique à long terme demande une intégration du facteur temps dans les conditions cadres de la législation. Un développement durable demande une législation durable et c'est compatible avec les contraintes du monde politique. Et celles-ci permettent de donner une priorité au long terme. Parce que sans ça, je ne crois pas que nous arriverons jamais à résoudre ce problème. La solution du problème des déchets est donc avant tout un problème d'un changement de but dans les priorités de la société entière pour une vie en balance, en harmonie avec l'environnement et l'homme. Au cœur du développement durable se cache un questionnement: comment créer l'envie de changer le comportement de chacun et de tout? Et je crois que Saint-Exupéry, dans La Citadelle, nous a donné une indication. Créer la navire, il n'a pas parlé de déchets, il a parlé de navire. Créer le navire, c'est exclusivement fonder la pente vers la mer. Et je crois que la solution des déchets, c'est très similaire. Il faut créer ce désir pour vivre sans déchets ou avec moins de déchets, pour ne pas consommer si on peut l'éviter, ou pour consommer différemment. J'ai essayé de vous montrer dans ces 50 minutes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier de votre exposé qui est extrêmement intéressant et qui en plus a une grande portée philosophique. J'ai beaucoup apprécié. Mais je voulais vous poser une question vraiment ponctuelle sur l'utilisation des vieilles voitures. Est-ce que, je trouve ça tout à fait charmant en plus, mais est-ce que ça ne pose pas un autre problème de pollution? Parce que bon, moi je ne m'y connais pas du tout en voiture et je n'en ai pas. Bon. Mais les voitures anciennes, je crois, consomment beaucoup plus d'essence et peut-être qu'elles sont plus polluantes. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose? Parce que je voudrais le savoir.
La consommation des voitures dépend de la taille du moteur. Malheureusement, beaucoup de gens anciennement avaient peu d'argent et ont acheté des voitures avec des petits moteurs. Donc vous avez, dans les vieilles voitures, vous avez des Panhard, vous avez des Citroën avec des moteurs de 600 cubiques centimètres ou de 1000 cubiques centimètres qui aujourd'hui seraient vendus comme voitures écologiques. Mais c'est vrai que si vous avez une Rolls avec un moteur 12 cylindres, c'est clair que ça consomme autant d'essence qu'aujourd'hui un moteur de 12 cylindres. Donc c'est le problème de la consommation d'essence, c'est un problème de taille du moteur. Le changement et le pot catalytique, malheureusement, ne change absolument rien au CO2. Le pot catalytique a permis d'éliminer le plomb parce qu'il n'est pas compatible avec le plomb. L'essence à plomb a été inventée en 1957 par un chimiste Büchi à Lucerne. Donc, toutes les voitures avant 1960 roulaient toujours et encore avec de l'essence sans plomb. Donc, malheureusement, il y a un grand mythe dans les voitures, c'est que les voitures modernes sont beaucoup plus propres que les voitures anciennes. C'est plutôt l'entretien, la qualité de l'entretien qui est important. Mais le grand changement qui va venir, c'est le changement vers les voitures électriques, parce qu'avec les piles à combustible ou les piles, les batteries, les piles tout court, il y aurait toute autre voiture, et c'est aussi ce que le chef de General Motors avait en tête. Parce qu'une fois que vous avez des voitures électriques, la mise à jour technologique d'une voiture se fait tout simplement par le changement des piles, des batteries, ou par le changement de la pile à combustible. Parce que le grand défaut de l'automobile, c'est le moteur à combustion. Tant qu'on n'a plus le moteur à combustion, ça devient rentable, même pour les fabricants, de vous louer des voitures, parce qu'on peut les remettre à jour régulièrement en changeant une petite unité.
Une question à monsieur.
Votre approche systémique peut s'appliquer aux déchets radioactifs. Est-ce qu'on peut envoyer des déchets radioactifs dans l'espace? Parce que c'est un grand problème, ces déchets.
Permettez-vous de vous répondre d'éviter votre question, mais de vous donner une autre réponse. Les déchets radioactifs, c'est un problème économique et pas un problème écologique. En Suisse, c'est impossible de trouver un endroit jusqu'ici pour les déchets, pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons démocratiques. Ce qui veut dire que les gens commencent à vendre les actions des centrales nucléaires. La dernière vente, c'est une banque allemande qui a vendu 5% du capital action d'une centrale nucléaire suisse à un investisseur suisse pour le prix de 400 millions de francs français. Ce qui est intéressant, c'est le vendeur des actions qui a payé les 400 millions de francs français. Donc la valeur d'une centrale nucléaire en Suisse, maintenant on le sait, c'est moins 1,5 milliards d'euros. Donc, on a fait quelque part une grande connerie immense quand on a pensé que c'était économique. Maintenant, évidemment, on a le problème des déchets. Et je crois, de nouveau, ça va être surtout un problème économique parce que pour lancer les déchets là-haut, en principe, on sait que la plupart des choses qui sont là-haut dans l'espace reviennent plutôt plus tard. En plus, on sait qu'un lancement sur cinq risque de rater. Donc je crois que c'est plus sûr, de, si vraiment on veut éviter les catastrophes, de garder les déchets. Personne ne sait où et personne ne sait qui va payer pour les garder pendant 500 ans. Mais on s'est lancé dans quelque chose, maintenant c'est de nouveau la logique de l'économie linéaire, l'évolution linéaire. Évidemment maintenant, il faut trouver une solution, mais ça va coûter cher.
Une question là.
Oui, bonjour monsieur, j'ai deux questions, rapidement. D'abord, par rapport aux risques qui sont mis dans l'eau, il n'y a pas des risques. Par exemple, je pense aux pauvres Pays-Bas, ils ne vont pas devenir un jour les pays sous-marins. Hein. Donc la question est la suivante, est-ce que les déchets qui sont mis dans la mer, ça ne fait pas augmenter le niveau de l'eau? C'est pour ça que je pensais aux pauvres Pays-Bas.
Oui, non, c'est là.
Ma deuxième question est très simple. Quand est-ce que vous allez revendre votre voiture? Moi, j'achète. Hein.
Alors, heureusement, la surface des mers ou le volume des mers est tellement immense que les déchets, les sous-marins russes et tout ce qu'on met dans ce qu'on laisse dans les mers, ça a guère une influence. Mais par contre, vous avez peut-être lu que depuis quelques années, vous ne pouvez plus faire les fameuses fêtes de champagne au pôle Nord, c'est-à-dire vous montez avec un casse-glace, comment ça s'appelle, brise-glace russe atomique au pôle Nord pour fêter sur la banquise le pôle Nord avec une coupe de champagne. C'était une grande excursion touristique pendant beaucoup d'années. Pour la simple raison, il n'y a plus de glace, en tout cas en état, au pôle Nord. Cette année, le brise-glace a dû continuer pendant 20 km avant de trouver de la glace. Donc, le problème de la mer, c'est que le volume de l'eau augmente tout simplement parce que la glace diminue. Et quand la glace fond, bon, ça fait de l'eau, ça va dans les océans. Et donc, le réchauffement global, le changement de climat, c'est difficile à savoir ce qui se passe. Et c'est même difficile de savoir qui est de faute. Les Américains maintiennent toujours que ça n'a rien à faire avec l'homme ou le CO2. Mais en tout cas, nous savons que nous avons un problème qui va probablement augmenter. Et selon le principe de précaution, on devrait arrêter de produire du CO2, ça ne peut pas faire du mal.
Je retiens que l'un des messages que vous avez voulu faire passer est que c'est par le comportement des consommateurs, c'est-à-dire notre comportement, qu'on pourra développer une économie de type durable, telle que vous l'avez exposée, plutôt que par la voie de la législation, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous donner des pistes qui pourraient aller dans ce sens, c'est-à-dire que les consommateurs progressivement prennent conscience des problèmes qui sont actuels. Est-ce que vous avez des exemples dans cet ordre d'idées?
Bon, évidemment, la stratégie la plus efficace, ce serait si les cadres légaux de l'État et les consommateurs et les acteurs économiques poussent tous dans la même direction. Mais pour revenir à Sénèque, la solution la plus efficace pour le consommateur, c'est d'acheter des produits de bonne qualité et de les faire durer. Le problème, c'est que les produits de bonne qualité, les souliers faits main, les habits chers, c'est normalement aussi des choses qui coûtent cher. Et c'est des choses qui ne vous permettent pas d'être à la mode. Parce que c'est l'avantage de ces habits d'affaires, par exemple. Vous ne voyez pas si ça a 10 ans, ou s'il est vieux de 10 ans ou d'un an. C'est jamais à la mode, mais c'est toujours modique. Donc, si vous voulez jouer le jeu de la mode, il y a un principe, seulement cette approche-là, aussi pour les habits. Alors, n'achetez rien. Si vous voulez toujours avoir autre chose, une autre voiture, d'autres habits, un autre ordinateur, alors n'achetez rien, louez les choses, faites du leasing pour une année ou deux ans. Et en effet, ça vous donne une grande flexibilité. Ça ne vous permet jamais de vous fixer, de vous décider ce que vous voulez. Mais vous savez que quand vous rendez les choses, l'autre ne va pas le jeter parce qu'il veut faire du fric avec. Il veut le revendre, le relouer à quelqu'un d'autre. Mais si vous savez ce que vous voulez, alors achetez seulement les meilleurs produits et puis faites-les durer.
Une toute dernière question là-haut.
Bonjour et merci de votre exposé. Pourriez-vous nous en dire plus sur les 12 tonnes de minerais dont vous avez parlé au début de votre exposé et sur les CFC, puisque 100 ans avant qu'ils arrivent dans la couche d'ozone, c'est à prendre en considération dès aujourd'hui.
Les minerais, ça je peux vous donner, si vous voulez, la source, c'est un article qui est publié, un article aux États-Unis, une étude des États-Unis qui a étudié tous ces flux de matière. Ou autrement, vous avez aussi une source à Paris, le professeur Bob Ayres, A-Y-R-E-S, à l'INSEAD. C'est un des grands spécialistes sur cette question. Et il a aussi des dizaines de publications au même sujet. Donc je suis sûr, si vous écrivez à professeur Ayres, à l'INSEAD, à Fontainebleau, il va vous donner tous ces tout dans le domaine public. La question des CFC, c'est un autre problème Nord-Sud parce qu'en principe, dans les pays industrialisés, nous avons arrêté d'utiliser des CFC. Nous utilisons autre chose au lieu des CFC. Et même là, on peut avoir des doutes si les autres choses à long terme sont mieux que les CFC. Mais les pays en voie de développement utilisent, consomment toujours des CFC en grande quantité. Et là, on a de nouveau le problème des pauvres. Les pauvres, normalement, ils sont obligés d'acheter les solutions les meilleurs marchés. Et toute technologie qui est dans le domaine public, qui est pratiquement jetée, coûte moins cher qu'une technologie où vous avez des tantièmes, des brevets à payer. Donc, la vue systémique que j'ai dit au début veut et évidemment dire systémique aussi au niveau du globe. C'est-à-dire, il faut, si on veut faire une optimisation de ces questions du développement durable, il faut le faire au niveau global et à la limite, il faut trouver des moyens pour faire cadeau des technologies de pointe aux pays en voie de développement. Et il y a certainement, il y a des stratégies, on peut toujours trouver des stratégies, mais on ne peut pas s'attendre que les pays pauvres achètent les derniers brevets à haut prix. Donc c'est aussi à nous de choisir si nous sommes prêts de montrer notre intérêt, notre responsabilité globale. Et ça pouvait inclure le fait qu'on fait cadeau, qu'on met certains brevets dans le domaine public et qu'on trouve une autre façon de rembourser l'inventeur pour ses idées.
Walter Stel, merci.
Merci à vous. Merci beaucoup.